Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre émission Parlons Foot 87.9 FM sur Fréquencier. Aujourd'hui c'est moi l'animateur Enzo, donc je suis en compagnie de Dylan et de Valentin.
Bonjour.
Bonjour.
Donc au sommet on va parler de l'équipe de France et des matchs amicaux qui viennent, de la Ligue des Champions, du Classico Paris-OM, de la Coupe de France, les tirages, ils ont été faits. Donc on va commencer tout de suite avec le Classico Paris-Marseille. Est-ce que c'est le bon match pour relancer Marseille dans sa saison?
Bon match pour relancer Marseille dans sa saison, je sais pas trop quoi dire, hein. Marseille c'est une équipe qui ressemble à rien, c'est clairement de le dire. Pourtant il y a des joueurs, il y a de la qualité, on le sait. Alors les joueurs ont l'air d'avoir à cœur de gagner ce match puisque ça a encore fait la polémique par rapport à la Ligue Europa.
Comme chaque année.
Alors Mitchell lui veut jouer la Ligue Europa à fond, sauf que c'est les joueurs marseillais qui ne veulent pas la jouer en allant voir leur entraîneur en leur disant qu'ils se sentent fatigués et qu'ils voudraient se reposer pour le match de dimanche. Donc du coup Mitchell il peut permettre à quelques joueurs de se reposer mais pas l'effectif complet. Maintenant je pense que Paris est au-dessus, mais attention aux Parisiens tout de même de ne pas refaire les erreurs
de Nantes,
et de Reims, oui. Et de Bordeaux, c'est-à-dire de la jouer baba cool et de se prendre un but pour revenir après, parce que je pense que s'ils se prennent un but contre Marseille ça va encore plus pousser Marseille à aller de l'avant et ça va être beaucoup plus compliqué je pense pour Paris pour se réveiller.
Et on voit que Marseille est toujours beaucoup plus à cœur de gagner les classicos que Paris depuis que les Qataris ont repris le club.
Mais les classicos c'est plus la même chose qu'à l'époque, il y avait de l'enjeu. Aujourd'hui Paris c'est plus Paris, Marseille reste Marseille.
L'année dernière il y avait de l'enjeu parce que Marseille avait retrouvé un bon niveau de jeu.
Il avait retrouvé l'entraîneur qui permettait à Marseille de s'étoffer un peu plus. Mais aujourd'hui bon, c'est sûr que c'est pas les mêmes Paris-Marseille qu'à l'époque. Maintenant ça reste des matchs importants, mais
à l'époque c'était des boucheries.
C'était des boucheries, mais il y avait des buts. On voyait Paris qui prenait pas mal de buts dans un classico. Parfois c'est Paris qui créait l'exploit. Aujourd'hui Paris est au-dessus, pas seulement de Marseille mais de la Ligue 1. Le classico, oui, on peut l'appeler le classico, mais c'est pas la même faveur qu'avant, pour moi.
Il faut pas oublier qu'il y a 5 ans, la première année des Qataris, Marseille avait fait un début de saison catastrophique, comme ils le font là aujourd'hui. Ils s'étaient imposés 3-0 à domicile contre Paris. But d'Amalfitano.
T'es sûr que c'est quand les Qataris sont arrivés? Parce que pour moi,
la première année des Qataris.
La première année des Qataris, ils n'avaient pas fait 2-2 et.
Non, ça c'est l'année d'Ibrahimovic, l'année suivante. La première année, il y avait Pastore, il y avait Ménès, tout ça qui était sur le terrain. Paris avait pris 3-0. L'année suivante, il y avait Zlatan qui était là, ils avaient fait 2-2.
Ouais, je me rappelle plus.
Là, c'est pas pareil. Là, Marseille a une équipe faible, comme l'a dit Dylan.
Ils ont les joueurs.
Oui, heureusement qu'il y a Diarra quand même au milieu de terrain, parce que si c'est pas Diarra, Marseille serait dans la deuxième partie.
C'est Diarra le patron aujourd'hui. Oui. Marseille serait au même niveau que Montpellier s'il n'y avait pas Diarra.
Oui. Nkoulou il est derrière mais on le voit plus. Nkoulou il a du mal.
Et Nkoulou fait de plus en plus d'erreurs. Oui. Hein, je l'ai vu contre Marseille. Contre Angers.
Le premier but c'est quasiment le deuxième. Enfin le penalty il doit aller sur le défenseur.
Le penalty c'est oui. Du coup c'est Cabella qui fait.
C'est Cabella qui fait la faute.
Qui fait la faute. Mais ouais Nkoulou aurait mieux fait aussi de partir à Lyon. Maintenant ça aurait fait ce que ça fait aujourd'hui Lyon. Hein, c'est-à-dire une défense, une vraie passoire malgré les joueurs qu'ils ont recrutés.
Mais bon. Pas forcément le vendre à Lyon et à un club étranger. Anglais, c'est possible parce que les droits anglais sont tellement.
La seule proposition qu'il y avait à un an de son contrat, c'était Lyon. Lyon proposait 10 millions d'euros. Moi, je pense qu'on est un peu bête quand à un an de la fin du contrat du joueur et qu'on est sûr qu'il va pas prolonger, de refuser 10 millions d'euros.
Mandanda, c'est le même cas.
Non, il avait eu 10 millions d'euros par le Beşiktaş, Mandanda, et ça avait été refusé aussi. Mais là, c'était un refus du joueur.
Mais bon, Paris a quand même une équipe largement au-dessus et gagnera le Classico pour moi.
Pour moi aussi. Maintenant, il ne faut pas refaire les mêmes erreurs que lors des 3 dernières journées de championnat.
Info minute, Valentin. Alors, à la liste de
J'ai pas tous les joueurs, mais il y a quand même des surprises dans la liste de Deschamps.
C'est annoncé. Hein.
C'est annoncé. Zuma, Tremolinas, Sako sont rappelés.
Sako de retour.
Martial Ntep, Areola qui a été appelé et Lassana Diarra. Lassana Diarra est rappelé en équipe de France. C'est normal hein, quand même.
Lassana Diarra rappelé en équipe de France. C'est annoncé.
Par contre, j'ai pas Ben Arfa.
Non.
J'attendrai qu'il revienne aussi.
C'était un des deux. Mais Areola, c'est aussi dû à son début de saison exceptionnel avec Villarreal, puisqu'on
décisif, hein, ils sont premiers.
Il profite de la blessure d'Asenro pour se mettre en valeur. Maintenant, de là à le sélectionner en équipe de France, je n'aurais pas fait ce choix-là.
Bah après, il faudrait voir aussi la place de quel gardien.
On reviendra sur ça après. On va finir notre débat sur le Classico. Deuxième question, Paris est-il retombé dans ses travers de l'année dernière ? C'est-à-dire ne jouer qu'une partie du match.
Pour moi, non. C'est différent parce que l'année dernière, il a commencé par des matchs nuls. C'était pas le fait de ne pas jouer, mais c'était la difficulté de rentrer dans le championnat en pensant plutôt à la Ligue des Champions avant. Là, aujourd'hui, ils ont commencé 3 matchs, 3 victoires, donc c'est-à-dire mieux que l'année dernière. Et depuis que la Ligue des Champions a commencé, on ressent par contre un relâchement de la part des joueurs où on se contente du minimum. Mais il y a aussi une volonté de la part de Laurent Blanc de faire tourner l'effectif, notamment en titularisant.
C'est un luxe maintenant parce que l'année dernière, il ne pouvait pas.
Ils ont doublé les postes, donc c'est l'avantage. Il a la volonté de faire tourner l'effectif, notamment en faisant jouer Stambouli au milieu de terrain et même de mettre de titulariser un peu plus Lavetti, Pastore et Rabiot. Maintenant, voilà, c'est ce problème de relâchement. C'est encore différent de l'année dernière. C'était pas le même relâchement. L'année dernière, on se contentait du minimum. Et là, je crois que Paris, ils arrivent, ils pensent ils sont devant. Et finalement, au fur et à mesure du match, voilà, ils ont de la marge. Au fur et à mesure du match, la marge diminue.
Et on a pu voir leur capacité de réaction contre Reims dernièrement. Donc, ils sont cassés un but à la 83e et dans la foulée, ils égalisent.
84e but, ouais. Voilà. Mais contre Nantes, ils auraient pu s'en prendre 3 avant de marquer les 4.
Mais le début de match de Nantes a été vraiment.
T'as dit qu'il y a un relâchement cette saison, mais enfin, contre Nantes, c'était pas un relâchement puisqu'ils ont pas du tout démarré le début du match comme il le fallait.
La première période a été Nantes.
Totalement une catastrophe. Le poteau de Bamoun qui doit être dedans.
Ça revient au manque de volonté des Parisiens.
Attention quand même pour Paris, parce que s'ils font le même début de match contre Nantes, contre le Real Madrid ou en Ligue des Champions en quart de finale et tout ça, c'est pas un qui vont s'en prendre. Ils vont s'en prendre beaucoup plus.
Il faut qu'ils prennent, pour être un grand club, il faut déjà qu'ils prennent l'habitude en championnat.
Oui.
Maintenant,
le championnat de Ligue 1, c'est.
Maintenant, le Real de Madrid en Liga, j'ai l'impression qu'ils se contentent aussi du minimum. Pour l'instant, c'est pas des résultats énormes non plus.
C'est pas comparable parce que le Real est pour moi au-dessus de Paris.
Oui, mais le Real est censé être au-dessus de toutes les équipes de Liga qu'il a affrontées depuis le début de ce championnat. Et pourtant, ils peinent 1-0 contre
Grenade,
2-1 contre je ne sais plus qui, enfin
l'Espagnol c'était 6-0.
Ils ont joué contre des petites équipes et le fait de ne pas réussir à marquer comme le faisait le Barça l'année dernière contre ces équipes.
Ouais, mais le Barça, le Real sont des équipes qui vont viser la Ligue des Champions et c'est pas étonnant que pour ce début de saison ils soient pas encore.
Pour moi, le Real de Madrid a une équipe beaucoup plus étoffée. C'est une équipe 5 étoiles par rapport au Paris Saint-Germain qui n'est qu'une équipe 4,5 étoiles. Mais pour moi, le Paris Saint-Germain, en ce début de saison, si on les compare au Real de Madrid, pour moi, ils sont meilleurs.
Parce qu'ils ont voulu se mettre à l'abri comparé à l'année dernière. Ils avaient été obligés de batailler jusqu'à là.
C'est l'avantage, hein, c'était l'objectif. Fallait commencer la saison très fort. Maintenant, ils sont en avance sur Saint-Etienne. Qui est deuxième, ils sont en avance.
Il s'est pris une volée contre Nice 4-1.
Oui, ils sont en avance. Ça, c'est dû à leur faible niveau de jeu à Saint-Etienne. Hein. Cette année, ils se contentent pas de grand-chose non plus.
Pour une fois, ils ont fait un recrutement intelligent avec Berić qui est arrivé.
Berić,
23
oui.
buts en 29 matchs sur l'année civile. C'est
meilleur du championnat autrichien. Mais voilà, Paris a de l'avance. C'était l'objectif pour pouvoir jouer la Ligue des Champions à fond et pourquoi pas espérer l'emporter. Aujourd'hui, clairement, ils sont capables d'aller dans le top 5, comme on dit, le top 5 plutôt. Mais voilà.
Valentin.
Paris, ça restera Paris. Hein. Ça va faire des bons matchs, des moins bons. Mais bon, cette saison, quand même, ils ont largement quoi faire 90 minutes dans un match. Après, il faut qu'ils en veulent.
Par contre, il faut donner. Là, je remettrai en place parce que je trouve que bon, Trapp, il nous avait habitué lors de ses deux premiers matchs à des parades, un gardien rassurant. Et depuis le match de Bordeaux, il est de moins en moins rassurant comme gardien, je trouve.
Ce qui est logique, il faut qu'il reprenne la confiance. Dylan Kerr, tu sais comment ça se passe.
Oui, mais justement, je pense que la meilleure façon pour qu'il puisse reprendre confiance, c'est de mettre une concurrence entre les gardiens. Aujourd'hui, les trois gardiens du Paris Saint-Germain, le seul qui n'a pas fait de boulette en jouant au Paris Saint-Germain, c'est Douchez.
Alors, tu le veux en titulaire, hein, ça fait plusieurs semaines que tu le réclames.
Douchez titulaire toute la saison. Non, on sait très bien que Douchez est quand même un niveau en dessous de ses gardiens, mais sur le peu de matchs qu'il a fait la saison passée, il a été meilleur que Sirigu, et pour l'instant, Trapp s'inquiète un peu.
D'accord, je pense que c'est un gardien qui est sous-coté.
Comparé à d'autres gardiens. Mais il a pas eu de chance non plus à son arrivée, hein. Sirigu n'aurait pas dû être là à la base. Maintenant, je pense qu'il faudrait, on fait tourner un peu l'effectif, en défense, au milieu, en attaque, et pourquoi pas l'histoire d'un match, faire jouer Douchez et puis ensuite faire jouer Sirigu, parce qu'après tout on fait jouer Douchez, pourquoi pas Sirigu un match, hein. Et puis Trapp il va peut-être se dire là c'est le match, faut pas que je fasse d'erreur. Et puis je pense que
faire le modèle barcelonais avec Sirigu qui joue au championnat, Trapp la Ligue des Champions et Douchez toutes les coupes.
Maintenant Trapp il est pas venu pour jouer que la Ligue des Champions.
Voilà, il est pas venu pour ça. Puis
Ter Stegen n'est pas venu que pour ça au Barça.
Ter Stegen maintenant cette année il fait les deux
Bravo est blessé.
C'est le gagnant titulaire et c'est pas ça. Hein. Ouais, parce qu'il fait quand même pas mal d'erreurs. Hein. Contre le Celta.
Contre le Celta, oui, c'est un très bon match.
Pour faire jouer un gardien en championnat, il est Ligue des Champions, c'est pas logique non plus.
Mais là où c'est la difficulté, si tu fais jouer Trapp en Ligue des Champions et en championnat, en gros, il reste la Coupe de la Ligue à Nicolas Douchez et la Coupe de France à Sirigu.
Sachant que Paris va
essayer de faire les 4 encore.
Non, ils ont dit qu'ils ne joueraient pas une des deux.
Pour moi, ils vont en lâcher une, et je pense que celle qu'ils vont lâcher, c'est la Coupe de France.
Coupe de France ?
Pour moi, c'est celle qu'ils vont lâcher.
Pour peut-être laisser une place, une chance à un autre club français ?
Oui.
Pourquoi pas aussi ?
Donc, on va passer au dernier débat sur le Classico. Êtes-vous d'accord avec les sanctions sur Marseille, donc la suppression des tribunes ? L'interdiction d'aller aux supporters d'aller.
Oui, quand
même. C'est mieux qu'un match à huis clos.
Et puis c'est mieux que des retraits de points aussi.
Aussi. Pour moi, c'est une bonne solution. Et puis bon, ça a fait réagir les supporters marseillais qui se sont eux-mêmes interdits de déplacement à Paris et qui ont demandé au club que ce soit eux qui gèrent les abonnements pour les tribunes derrière les buts. Donc après tout, il y a une réaction de la part des supporters de Marseille aujourd'hui.
Après, ça va pour venir aussi que les supporters et les joueurs qui veulent pas jouer avec des champions. Ce que ce matin j'ai entendu, il y a que 10 000 personnes qui viendraient voir l'OM contre Liberec. C'est-à-dire que même les supporters n'ont rien à faire de la Ligue Europa, quoi.
Ouais, c'est triste. Les tribunes derrière sont toujours fermées pour ce soir. Hein.
Donc on va passer à l'équipe de France maintenant. Valentin va nous dire la liste de Didier Deschamps avec les surprises. Comme on l'a dit tout à l'heure, Lassana Diarra rappelé.
Alors, gardien Hugo Lloris, Steve Mandanda et Alphonse Areola qui remplacent Ruffier
qui était de retour, Costil blessé.
Voilà. Défenseur Patrice Evra, Christophe Jallet, Eliakim Mangala, Bakary Sagna, Mamadou Sakho, Benoît Tremoulinas, Raphaël Varane et Kurt Zouma.
Petite surprise, pas Mathieu Debuchy.
Non, il faut qu'il se remette encore un petit peu de sa blessure.
Mathieu
aussi,
Debuchy, je pense que c'est dû aussi au résultat d'Arsenal.
Ouais, mais pour moi, Debuchy est meilleur que Sagna.
Pour moi, il est meilleur que Sagna.
Sagna n'est pas capable de faire la centre.
Evra, Mangala et Sagna, je ne les sélectionne pas.
Il y a quand Aymeric Laporte dans cette équipe.
Aymeric Laporte aurait pu, mais bon, même avec les espoirs contre le Brésil, ça a été un peu trop limite pour Aymeric Laporte, donc ça prouve qu'il doit encore prendre de l'assurance sur le terrain.
C'est l'avenir de
et il a encore à s'imposer à Bilbao.
Il est titulaire.
Mais en tant que vrai patron.
Milieu de terrain, Johan Cabaye, Blaise Matuidi, Paul Pogba, Morgan Schneiderlin, Moussa Sissoko et le retour de Lassana Diarra.
Lassana Diarra, logique, oui.
Et en attaque, Karim Benzema, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, Anthony Martial, Paul George Entep et Mathieu Valbuena.
Donc pas d'Alexandre Lacazette appelé.
Pas d'Alexandre Lacazette. Ce résultat de Lyon aussi.
Lacazette, ça me paraît logique.
Pas de Gomis. Qui fait
pas
un très
de
bon
Gomis,
début,
parce que Gomis c'est l'équipe de France. Moi, ça n'a jamais marché. Et je serais Didier Deschamps, je ne le rappellerai pas non plus. Tout comme on en parlait cette semaine avec Ben Arfa, pour moi Ben Arfa c'est le passé de l'équipe de France et c'est fini. Et puis bon bah il y a quand même, moi j'aurais pas sélectionné Giroud parce qu'après tout on dit que Lacazette c'est pas ça, mais Giroud c'est pas non plus ça dans son club.
En équipe de France c'est pas bon Giroud.
Et puis Benzema, bon c'est vrai que sur les deux derniers matchs du Real c'est l'homme du Real puisque c'est lui qui leur permet de gagner, mais sur les trois derniers matchs en
contre
équipe
Bilbao,
de France
c'est lui qui met le doublé.
Et bon après Quand un sélectionneur sélectionne des joueurs, c'est par rapport à leur performance en club. Le problème, c'est que Benzema, il est performant en club, mais arrivant en équipe de France, il n'est plus
du tout. Souviens-toi de la Coupe du Monde, Nasri avait fait une très bonne saison. Il n'avait pas été appelé parce qu'il pouvait perturber le groupe.
Aujourd'hui, le problème de Didier Deschamps, c'est qu'il veut que le patron ce soit Benzema, et il s'oblige à appeler tout le temps Benzema par rapport à ses performances en club, alors que lui-même, j'en pense, c'est très bien que Benzema en équipe de France, c'est pas ça du tout. On l'a vu sur les deux derniers matchs de l'équipe de France. Benzema sur le terrain, il a rien fait. Moi, j'aurais rappelé des joueurs comme Anthony Modeste qui fait un super début de saison, ou encore Kevin Gamero.
Kevin Gamero qui est titulaire depuis le départ de Carlos Bacca pour l'AC Milan.
Séville est en difficulté, mais Gamero pousse. Et comme je l'avais dit, Anthony Modeste, depuis ce début de saison, c'est 4 passes décisives et 5 buts à Cologne. Alors, ok, c'est pas une star, mais est-ce qu'il y a besoin d'être une star pour jouer en équipe nationale? Moi, je pense que la performance compte le plus. Et en attaque, bah, ceux qui doivent venir, c'est ceux qui marquent. Modeste, il marque, donc il a le droit d'avoir sa chance.
Donc, on va passer au pronostic pour les matchs d'équipe de France, France-Danemark.
Victoire de l'équipe de France pour moi.
Parce que c'est vrai que vu ce que nous offre ce qu'a fait montrer le Danemark en Arménie, c'est pas ça du tout. Puis la France quand même a quand même de quoi battre largement le Danemark.
Pour moi, ce sera la France.
Et l'autre match France-Arménie. Bon, c'est pareil.
A priori, la France devrait.
La France devrait. Mais attention quand même à l'Arménie. Hein.
La France a perdu 1-0 contre l'Albanie.
Oui.
L'Arménie est une équipe qui a du potentiel, elle l'avait montré contre le Portugal. Vu les personnes qui ont été sélectionnées, je pense notamment en défense, il y a quelque chose à faire pour l'Arménie. Donc pour moi, partisan du match nul.
Même la chose, même vu les personnes qui ont été sélectionnées en attaque, hein, ils marquent pas.
Il y a Martial, là, c'est peut-être aussi la chance pour Martial.
Faudrait qu'il soit titulaire aussi, parce que Benzema, il est intouchable hein, si on suit Deschamps.
Dans la continuité de ce qu'il fait à Manchester, autant qu'il nous prouve que lui, il s'appelle pas Benzema.
Il faudrait marquer.
Donc faut marquer.
Même Ntep. Hein.
Faut marquer en étant titulaire. Ntep.
Pasteur décisif, plus Ntep. Mais il peut marquer aussi.
Il a du mal hein, sur les deux dernières journées de championnat. Ntep.
Il a
du
marqué
mal,
contre, hein.
Lille.
Contre Lille. Lille. Après avoir atteint un pénalty tout de même.
Donc on va passer à la Ligue des Champions avec Paris qui s'est imposé 3-0 face au Shakhtar. Au Shakhtar. Grosse performance parce que le Shakhtar à domicile c'est costaud.
Voilà, on pouvait pas vraiment dire que le Shakhtar était à domicile non plus.
Ils jouent à Kiev, mais ils sont quand même en Ukraine.
La même chose.
Et Lyon qui est incliné face à Valence. Coup dur aussi pour les Lyonnais parce que leur qualification est quand même compromise.
Compromise, je sais pas.
Ah bah, quand on voit leur prochain match, c'est le Zénith Saint-Pétersbourg en Russie. Pour moi, ça sent la défaite. Hein. Parce qu'il faut aller le faire, battre le Zénith là-bas.
L'équipe de Lyon, elle est imprévisible.
Mais enfin.
Elle est imprévisible, ça c'est certain. C'est certain. Mais maintenant, Lyon n'a pas eu de chance non plus contre Valence. Hein. Il méritait pas de perdre. Hein. Toutes les barres et les poteaux qu'il y a eu dans ce match. Ça prouve que Lyon était pas dans son soir.
Il y a, il y a un manque de réalisme.
Comme je le dis, hein, quand ça veut pas rentrer, ça rentre pas. Hein.
Mais c'est pas la première fois cette saison que Lyon n'est pas dans son. On n'arrive pas à marquer.
Et là, c'est vraiment. Je crois que c'est vraiment de la malchance pour eux parce qu'ils auraient mérité. Hein.
Surtout que s'ils battaient Valence, ils auraient même dû battre aussi la Gantoise. Donc,
la Gantoise, c'est dû après avoir marqué leur but.
Ils
se sont relâchés, clairement.
Donc dans le groupe A, le Real s'est imposé 2-0 face à Malmo qui avait réduit les distances de son terrain pour jouer un tour au Real. Paris s'est imposé 3-0 au Shakhtar. Au classement, Paris premier avec le Real, troisième et quatrième Malmo et le Shakhtar. Dans le groupe B, le CSKA Moscou s'est imposé 3-2 face à Eindhoven alors qu'il menait 3-0. Et Manchester United s'est imposé 2-1 face à Wolfsburg en étant mené au score 1-0 avec un but de Caligiuri. Au classement, le CSKA est premier, deuxième Manchester, troisième Eindhoven, quatrième Wolfsburg, tous égalité de points. Dans le groupe C, Astana a créé la surprise en tenant en échec Galatasaray 2-2.
À domicile, Astana sera très fort.
Pourquoi pas viser une troisième place?
Ce serait même très sympathique de les retrouver en Ligue Europa.
Et la surprise, c'est l'Atlético Madrid qui s'incline 2-1 face au Benfica Lisbonne.
Ça, pour une surprise, c'en est une.
Le Benfica a l'air costaud cette année, contrairement à l'Atlético. Même si l'Atlético est...
L'Atlético a quand même des chances de titre en Liga avec le recrutement qu'ils ont fait.
Oui, oui, largement. Oui. Même si on sait que depuis le début de la saison...
Ils ont perdu qu'un match, c'est Barcelone.
C'est Barcelone. C'est dommage, le match qu'ils ont perdu contre Barcelone.
Non, ils ont perdu deux matchs,
oui, je crois.
Enfin, ils ont perdu Barcelone aussi.
Et Villarreal
1-0.
Qui fait très bien, qui fait un très bon début de saison.
Pour moi, l'Atlético peut revenir sur le Barça, sur le Real, il n'y a pas de problème.
Donc, au classement, premier Benfica, deuxième Atlético Madrid, troisième Astana, quatrième Galatasaray. Dans le groupe D, la Juventus s'est imposée 2-0 face à Séville. Et Mönchengladbach s'est incliné 2-1 face à Manchester City.
Ça va pas, Mönchengladbach, c'est inquiétant.
Dans le bas classement de l'Allemagne.
3 points, pas encore une victoire en Ligue des Champions.
Au classement, attention. Premier la Juve, deuxième Séville, troisième Manchester City, quatrième Mönchengladbach. Pronostic pour la prochaine journée, Paris-Réal.
Paris.
Match nul quand même.
C'est la semaine prochaine ou pas?
Dans trois semaines.
Deux semaines, non?
J'ai entendu trois semaines, moi. Après, je sais pas.
Et Malmö, Shakhtar Donetsk.
Victoire de Malmö.
Victoire du Shakhtar.
Malmö. Lyon, Zénith.
Match du. C'est Zénith, Lyon, tu veux dire?
Zénith, Lyon.
Match nul.
C'est triste à dire, mais victoire du Zénith. Hein.
Zénith. La Gantoise contre Valence. La Gantoise qui est vraiment une équipe.
Match de joueuse.
Match
une
équipe joueuse.
Pour moi, ce sera victoire de la Gantoise.
Ils n'ont perdu que 2-1 en Russie. En étant mené à 0, ça va se réaliser.
Ils ont un avantage, ils ont des supporters dans leur stade.
Ah bah, oui. Pour moi, la Gantoise va battre Valence. Et créer la surprise de ce groupe. Merci.
Et je les vois bien passer même en 8ème de finale. Parce que bon. À domicile, c'est costaud et on a vu qu'à l'extérieur, contre le Zénith, ça pouvait.
Après, je pense que s'ils passent en 8ème, ils sauront quoi s'attendre.
Hein. Si il y a gros... une équipe devant ils peuvent pas passer, c'est Valence. Clairement. Valence, c'est pas l'équipe de Valence de l'année dernière.
Ah oui.
Donc, s'ils avaient terminé deuxième, ce serait à la place de Valence, plus qu'à la place du Zénith, je pense.
Et Lyon dernier.
Bon, voilà, Lyon dernier, c'est le problème.
Donc en Europa League, Rubin Kazan Bordeaux. Ce soir, 21h05.
Même si Bordeaux a fait match contre Liverpool, elle est gagnée en Russie, c'est pas gagné. Hein.
Ouais, mais si on l'a bien fait.
Oui, Rubin Kazan va s'incliner. Pour moi, c'est Bordeaux qui va gagner ce soir. Oui.
Et finir en tête de la.
Se rattraper par rapport au match d'il y a deux semaines. Ils ont déjà gagné contre Lyon. Ils sont en confiance. Et ce soir, s'ils veulent vraiment prouver qu'ils sont une équipe capable de jouer le haut tableau dans le championnat de Ligue 1, ils doivent gagner contre le Rubin Kazan. S'ils sont pas capables, ça veut dire qu'ils ont joué face à Liverpool parce que c'était une affiche. Et que le Rubin Kazan, bon, bah, ça intéresse personne. Alors on va mettre une équipe bis. Et puis on va se concentrer pour le championnat. Donc à eux de prouver que s'ils ont envie de jouer la Ligue Europa, eh bah, ce soir ils vont faire un match.
Et ce serait peut-être l'un des seuls Français, le seul club français à le faire. Le jeu à la Ligue Europa. Mais Bordeaux va gagner.
Attention à Monaco, je pense qu'ils peuvent jouer.
Marseille, et quand il va avoir passé les phases de groupe, ça va changer à mon avis.
Liverpool-Sion.
Victoire de Liverpool.
Attention, attention, oui, c'est pas fait exprès.
Liverpool est à domicile quand même.
Ouais, mais bon, Brendan Rodgers n'a pas trop envie de jouer à Ligue Europa cette année, on a l'impression.
Mais on se demande ce qu'ils veulent jouer en fait, Liverpool, parce que quand tu les vois en première ligue, c'est catastrophique.
Il n'y a pas d'objectif, j'ai l'impression. On joue les matchs après les matchs et on voit ce qu'on arrive à faire, c'est ça.
Dans le groupe F, Marseille, Slovan Liberec.
Victoire de l'Olympique de Marseille.
Marseille.
Bah, s'ils jouent pas les Ligue Europa et qu'ils prennent la GR libérée, ils pourraient se faire piéger. Hein.
Ils peuvent se faire piéger, mais à domicile, pour moi, Marseille peut être supérieur tout de même. Oui.
Ils ont quand même gagné 3-0 à Groningen. Donc
parce que la
gagner.
Tribune derrière les buts est fermée, ça n'empêche que.
Il y a quand même du public.
Il y a quand même du public, il y a les deux tribunes face à face.
Mais Marseille va battre libéré, quoi.
Braga-Groningen.
Braga.
Victoire de Groningen.
Non, Braga. Groningen, ça n'a pas l'air solide cette année.
Dans le groupe G, la Lazio face à Saint-Etienne.
Match nul. La Lazio a de grosses difficultés en ce début de championnat. Donc Saint-Etienne doit impérativement.
Oui, ils doivent laver l'affront de Nice. Hein, parce que ça
impérativement.
Ouais. Saint-Etienne aussi.
Pour moi, la Lazio va pulvériser.
Si Saint-Etienne ne fait pas un résultat ce soir et ne propose pas de jeu ce soir, je pense qu'en Ligue 1, ils peuvent avoir peur de ne pas finir dans le top 6, de ne pas remporter de match en coupe et surtout de se faire éliminer dès les phases de poule en Ligue Europa. Faudrait peut-être se réveiller.
On voudrait même pas qu'il fasse 6 matchs nuls non plus.
Rosenborg, Dniepropetrovsk.
Rosenborg à domicile.
Rosenborg qui a tenu Saint-Etienne.
Donc pour moi, victoire de Rosenborg.
Niepro, attention parce que Niepro est
ils ont perdu la liste. Et chaque année, ils perdent des joueurs. Konoplyanka est parti.
Dans le groupe J, Monaco-Tottenham, le gros match.
Ce sera Tottenham pour moi.
Tottenham aussi.
Match nul. Karabakh-Anderlecht.
Et victoire de Karabakh.
Anderlecht de gagner.
Donc on va passer au tirage de la Coupe de France. Brûlons La Ferté-Bernard. Roisy-sur-Sarthe, Le Mans FC qui s'est imposé 3-0 face à Sillé. Guesselard Saint-Saturnin. La Chapelle-Saint-Aubin face à Saint-Berthevin. US Changé 53 face à La Flèche. Et ta petite équipe, Dylan, Juigné-sur-Sarthe face à la Suze.
Ah là là, un exploit de plus pour Julien qui a battu Spé 1-0, je l'avais anticipé. Pour l'autre petit poussé sous Jouette, bon bah ils auraient pu créer l'exploit face à l'UH Changé. Ils ont tenu une mi-temps, ils perdaient 1-0. Ils ont même dominé une bonne partie du match, mais en deuxième période, après 3 buts en 3 minutes sur 3 centres. Donc forcément après pour revenir c'est plus compliqué, mais très belle équipe de Sougelouette.
On va passer à Rouessé, Valentin. Ils ont fait quoi le week-end dernier?
Alors l'Abbé en challenge a perdu 3-0 contre Saint-Jean d'ACB et là s'est qualifié pour le troisième tour de la Coupe du District en battant Rouillon 2-1.
Du côté de Conly, donc une défaite 3-2, pourtant un match dominé par les Conlinois, donc face à Sainte-Corneille, auteur d'un beau coup franc en toute fin de match qui les qualifie pour le prochain tour de la compétition. Pour ce qui est de l'équipe B, elle est allée jouer contre la Quinte et s'est imposée 1-0 contre la Quinte. Donc tranquillement, ça va leur donner, je pense, bon au moral pour la suite du championnat, puisqu'on sait qu'ils ont de grosses difficultés, l'équipe B. Du côté de Tenny, donc l'équipe B a déclaré forfait pour le challenge. Quant à l'équipe A, elle s'est fait très peur, puisqu'elle a perdu 1-2, 3-0, 4-1. Et elle a réussi à revenir dans les 15 dernières minutes en gagnant 5-4. Auteur Cédric Vivet, donc 3 buts. David Vivet, 1 but sur pénalty. Et Steven Deschamps, 1 but sur pénalty aussi.
Et contre qui?
Contre Fier. Fier, équipe de 3ème division. Et ça prouve quand même que bon, bah, quand on décide de jouer, si on n'est pas dans son match, bah, quand on décide de s'y mettre, on peut revenir.
On peut revenir.
Victoire 5-4 de tennis.
Quant à Sillé, ils se sont imposés 6-0 face à Saint-Georges-le-Gautier en challenge. Et là, c'est incliné en Coupe de France contre Le Mans 3-0. Donc c'est là-dessus qu'on se quitte. À la semaine prochaine sur Fréquence Sillé dans Parlons Foot 47.9 FM.
Au revoir.
Au revoir.